Chapitre 21. La pluie crépitait comme une volée de plomb sur le pare-brise blindé. Elle s'appelait Justine Carter, poursuivit Douglas Traherne. Son père était le premier mari de ma mère. Justine, ma demi-sœur. Elle avait 4 ans à ma naissance. Je la connaissais depuis toujours jusqu'à ce que... Il se tut, comme s'il avait renoncé à partager son tourment. Jane le soupçonna de n'en avoir pas parlé depuis des années, peut-être même depuis les faits. Le meurtre de sa sœur n'était pas mentionné sur Internet, indubitablement parce qu'il ne portait pas le même patronyme. Aussi parce qu'il avait tout juste 10 ans à l'époque et que la loi protégeait jalousement l'intimité des enfants contre la curiosité des médias en ce temps-là. Justine était une fille brillante, généreuse et drôle. En dépit des 4 ans qui nous séparaient, nous étions très proches. Nous avons toujours été proches. Comme des jumeaux. Sa voix s'était métamorphosée. Il avait abandonné son ton bourru et s'exprimait avec une tendresse hantée par le chagrin. En lançant un coup d'œil dans sa direction, elle vit qu'il était aussi blanc que les marbrures de sa barbe. De fines gouttes de sueur perlaient sur son front. Il regardait fixement la route, hypnotisé par son passé. J'avais 10 ans. Elle en avait 14. C'était un samedi. Notre père, mon père, son beau-père, était en voyage d'affaires. Notre mère était allée rendre visite à une amie malade. Justine et moi étions seuls à la maison. On a sonné. Un type d'apparence normale. Je l'ai regardé à travers les carreaux de la porte. Il venait livrer des fleurs. Des roses. Un type normal avec des roses. On nous avait bien dit de ne jamais ouvrir la porte à un étranger. On savait. Je savais. J'ai ouvert la porte. Il m'a dit « Bonjour petit, je dois livrer des fleurs à une certaine Justine. » Il me tend les roses. Je les prends et il en profite pour m'envoyer son poing en pleine figure. Il entre, referme la porte. Je suis allongé par terre au milieu des roses. Il se baisse, me frappe à nouveau, pas le temps de prévenir Justine. Assommé. Je reste sans connaissance pendant un moment. Plus tôt dans la journée, Jane avait expliqué à Traherne qu'elle avait besoin de le comprendre, et il lui avait répondu que personne ne comprenait jamais personne. Dans certains cas, il était peut-être préférable de ne pas comprendre. « Quand je me réveille, » continua Traherne d'une voix douce, « je suis saucissonné avec du gros scotch, incapable d'un geste. J'ai mal, le visage tuméfié, des dents en moins, un goût de sang dans la bouche. J'entends des voix, je ne comprends pas au début, je vois trouble, je bats des paupières. » Des rigoles de sueur traversaient le visage livide de Traherne, auxquels se mélangeaient sans doute des larmes. Ses poings sur ses cuisses s'ouvraient et se refermaient, comme s'il cherchait à se raccrocher à un appui. « Je suis par terre dans sa... dans la chambre de Justine. Il l'a immobilisée et puis il m'a portée jusque-là, dans sa chambre. Et il... lui fait des trucs. » L'horreur qui contractait ses traits contredisait le calme relatif de sa voix. Elle le supplie d'arrêter. Il refuse. Elle pleure. Elle le supplie. Mais il refuse d'arrêter. Il remarque que j'ai repris conscience. Il me dit de regarder. Non. Je refuse. Je serre les paupières. Je suis dans l'incapacité d'aider Justine. Je suis ligotée. Je ne peux pas bouger. J'ai des fourmis dans les mains et les pieds à cause du scotch. Je ne peux pas bouger, mais je ne peux pas m'empêcher d'entendre. Je ne peux pas devenir sourd. Ça continue. Pendant 1 heure. Plus 1 heure. Je suis malade de peur et de rage. Je me déteste moi-même. Je voudrais mourir. Il avait prononcé la phrase dans un murmure. Jane était incapable de le regarder, de voir sa souffrance. Ni le temps, ni ce qu'il avait réalisé depuis ne pourrait jamais apaiser son âme. Elle se concentra sur la route, les cataractes de pluie, la chaussée détrempée, autant de détails qu'elle était capable de gérer. « Je voudrais mourir. » Et c'est elle qu'il tue. Il en a terminé avec elle. Alors il se débarrasse d'elle avec un couteau. Le chuchotement s'était transformé en murmure, mais chacun de ces mots conservait toute sa clarté. Ça dure un moment. Et puis il me dit « Hé, petit, regarde. » Je refuse de regarder, alors il me dit « Tu seras le prochain. Regarde bien. » Jane n'arrivait plus à gérer la pluie et la conduite. Elle s'arrêta sur le bas-côté. Elle s'enfonça sur son siège, les yeux fermés, et écouta la pluie qui rythmait ce récit de folie. Traherne poursuivit d'une voix légèrement plus forte. « Je n'entends même pas notre mère rentrer, lui non plus. Mon père a un flingue dans son bureau au rez-de-chaussée. Ma mère pénètre dans la chambre, elle tire sur l'assassin. Une seule fois. Elle s'empare d'un presse-papier sur le bureau de Justine et le lance à travers la fenêtre. Elle hurle. Ma mère hurle tout en continuant à le tenir en respect. Elle hurle parce qu'elle est incapable de ne pas hurler. Elle hurle jusqu'à s'arracher la voix, jusqu'à l'arrivée de la police, et elle hurle encore. Elle ne lui tire qu'une seule fois dessus. Elle ne le tue pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas pu. Traherne ouvrit sa portière et sortit dans la nuit. Debout sous la pluie, il plongea son regard dans une vallée obscure. Jane attendit. Elle ne pouvait qu'attendre. Il finit par remonter dans le blindé, tira sa portière à lui, dégouttant d'eau. Elle aurait aimé lui exprimer sa compassion, mais les mots qui lui venaient à l'esprit étaient obscènes par leur banalité. « Notre mère était une femme très douce. Elle n'a plus jamais été la même. Elle était cassée. Vide. Elle est morte 5 ans plus tard, à 41 ans. Un caillot de sang s'était détaché quelque part avant de monter au cerveau. Je suis persuadée qu'elle se l'était provoquée elle-même. C'est tout à fait possible, à mon avis. L'assassin s'appelait Emory Wayne Udall. Il avait repéré Justine un jour où elle rentrait de l'école. Il l'avait suivie pendant une semaine. Il surveillait la maison en attendant son heure. Il vit toujours. Il finira ses jours en prison. Mais il est en vie, ce qui n'est pas juste. Je suis toujours en vie, moi aussi. J'en suis heureuse, déclara Jane. Il ne voulut pas prendre la perche qu'elle lui tendait. Il se tut en attendant qu'elle redémarre. Pourquoi tant de gens ont-ils besoin de contrôler les autres, de leur dicter leur comportement, de les utiliser et de détruire ceux qui refusent de se laisser utiliser? Ce n'était pas une question rhétorique. Il attendait sa réaction. Pourquoi Hitler? Pourquoi Staline? Pourquoi Emory Wayne Udall? Je ne sais pas s'ils sont victimes d'un démon ou s'ils souffrent d'une anomalie du cerveau. Mais qu'importe en fin de compte. L'essentiel, c'est peut-être que nous ne soyons pas tous broyés par la machine, qu'on trouve le moyen d'arrêter les Emory Udall et les William Overton. Et les Berthold Schenek, avant qu'ils parviennent à leur fin. Une fois passé Stockton, la pluie se calma, puis s'arrêta complètement 3 kilomètres plus loin. Une heure s'écoula avant que Dougal ne rompe le silence. « Si j'avais tenu l'arme en main, je lui aurais tiré dessus plus d'une fois. Je lui aurais vidé le chargeur dans le corps. Je l'aurais tué. » « Moi aussi, » ajouta Jane. À Sacramento, ils quittèrent l'Interstate 5 et bifurquèrent sur la 80. Une heure plus tard, ils atteignaient Napa. Il était 1h40. Le samedi avait cédé la place au dimanche. Un immense motel annonçait des chambres libres. Jane se gara une rue plus loin, de peur que le Gourka ne soit filmé par les caméras de sécurité de l'établissement. Comme la vue de Dougal risquait d'inquiéter le réceptionniste de nuit, elle lui conseilla de rester dans le véhicule pendant qu'elle allait prendre les chambres. Elle montra l'un de ses faux permis, signa le registre sous le nom de Rachel Harrington et paya en liquide les deux chambres. La première pour elle et son mari imaginaire, la seconde pour leurs enfants supposés. Sur sa fiche, elle précisa qu'il voyageait à bord d'une Ford Explorer et inventa un numéro d'immatriculation. L'employé de nuit avait une couronne de cheveux blancs.
Des animaux domestiques ?
Non, aucun.
Les animaux sont admis dans l'aile nord.
Nous avions un chien, mais il est mort récemment.
Vous m'en voyez désolé. C'est surtout dur pour les enfants.
C'est dur aussi pour leur père et moi, répondit Jane.
Qu'est-ce que c'était ? Le chien, je veux dire.
Un golden retriever qui s'appelait Scooty.
Ce sont des chiens magnifiques.
C'est vrai, acquiesça-t-elle. Ils sont formidables. Elle retourna chercher Dougal et ils gagnèrent le motel avec leurs bagages. Dougal portait son sac de voyage et l'une des valises de Jane. Elle portait la seconde ainsi que le sac en cuir contenant les 60 000 $.
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça reste entre nous, le rassura-t-elle.
Bien. Il se dirigeait vers sa chambre lorsqu'il se retourna.
Je vais vous dire quelque chose, et vous ne commenterez pas.
D'accord.
Pour avoir une fille comme vous, il faut être béni des dieux.
Il s'enferma dans sa chambre et elle l'imita. Plus tard, allongée dans le noir, son pistolet sous l'oreiller voisin du sien, elle pensa à son père et à ce qu'elle était devenue à cause de lui, et pas grâce à son exemple. Elle dormit profondément le temps de quelques heures cette nuit-là, mais pas du sommeil innocent d'un ange.